Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Province de Maïndombe, près de 20 personnes ont été tuées hier par la milice appelée Mobondo qui se sont constituées en coupeurs de route près du village Moulounou. Information livrée par le député national Guy Moussomo et confirmée par le chef intérimaire de ce village. Examen d'état édition 2023. Les candidats finalistes du centre de Ngenge et de la province éducationnelle Nord Kivu 3 n'ont pas passé l'examen d'hier. En cause, les finalistes irréguliers, maintenus autodidactes, mécontents de leur statut, ont pris d'assaut le centre. Ils ont saccagé les bâtiments et déchiré les cahiers d'items. Et puis, notre invitée, c'est la sénatrice Francine Muyumba. Elle va nous parler des échanges que le FCC a eu avec l'ancien président Joseph Kabila le dimanche dernier, ainsi que du processus en cours. Mais avant, sachez tout d'abord qu'il se tient aujourd'hui à Luanda, en Angola, le sommet quadripartite CEAC, SADC, CIRGL et EAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Plusieurs chefs d'État africains sont attendus à ce sommet. C'est entre autres Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, président en exercice de la SADC, Ali Bongo Ondimba, président du Gabon et président en exercice de la CEAC, et João Lourenço de l'Angola. Ce sommet intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sur le schéma à adopter pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Depuis Luanda, retrouvons Kelly Nkouté. Elle nous fait le point.
Hier lundi, lors de la réunion ministérielle du sommet de la quadripartite ici à Luanda, la République démocratique du Congo a exigé de conserver la coordination des opérations et tactiques des forces régionales qui devront intervenir dans l'est de la RDC en laissant le volet politique et diplomatique à l'Union africaine. Cette position de la RDC a été donnée par le vice-premier ministre aux affaires étrangères, Christophe Lutundula, celui de la défense, Jean-Pierre Bemba, et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Boussa Nyamwisi. C'est ce mercredi, lors de la lecture du communiqué final, que nous saurons si cette position de la RDC va être prise en compte. Les chefs d'État présents au sommet auront aussi un moment de discussion avant l'adoption du communiqué final qui devra présenter le chronogramme des étapes à suivre pour le retour de la paix en RDC. Ce sommet sous l'égide de l'Union africaine avec l'accompagnement des Nations unies a pour but de coordonner et harmoniser toutes les réponses régionales pour des résultats concrets sur le terrain. Depuis Luanda en Angola, Kelly Nkouté, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, la situation sécuritaire reste déplorable dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe. Près de 20 personnes ont été tuées hier par des miliciens communément appelés Mobondo qui se sont constitués en coupeurs de route près du village Moulounou. C'est le député national Guy Moussomo qui livre l'information à la presse. Information confirmée par le chef intérimaire du village Moulounou. Le point avec Irène Boma.
Ces regains d'insécurité est survenu aux petites heures de lundi à quelques kilomètres du village Moulounou situé dans le territoire de Kwamout au Maïndombe. Selon le député national Guy Moussomo, il s'agit des commerçants en provenance du village Bokou qui sont allés acheter des produits agricoles au village Moulounou. En cours de route, ils sont tombés dans une embuscade l'air tendue par des assaillants armés de la milice dite Mobondo. Au moins 20 personnes ont été tuées à l'aide des armes à feu, rapporte l'élite de Kwamout.
Il y a eu des jeunes gens qui sont allés chercher leurs sacs de manioc. À leur route, ils ont rencontré les assaillants qui les ont attaqués. Ils ont placé une embuscade. Et puis, quand c'est les jeunes qui allaient descendre du véhicule, les Mibondo les ont tués avec les armes à feu.
Contacté à ce sujet, le chef intérimaire du village Moulou nous confirme l'information et livre le même bilan. À en croire Alain Kobo, les véhicules transportaient à son bord au moins une trentaine de personnes. À part celles qui sont tuées, les unes se sont sauvées de justesse et d'autres ont été prises en otage par ces miliciens qui ont aussi incendié les véhicules. Parmi les personnes prises en otage, il y a aussi la femme du chauffeur, a-t-il signalé. Irène Moma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu également, la situation sécuritaire demeure tendue dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, ceci consécutivement à des affrontements récurrents opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux, dits les Wazalendo. Les derniers affrontements en date ont eu lieu hier dans la zone de Bukombo et Busanza, territoire de Rutshuru. Bernardin Nyangi nous fait le point.
Dans le groupement de Bukombo chefferie de Buito, des tirs ont été entendus toute la matinée hier lundi dans les villages Shongi et Kavumu. Selon les sources sur place, les rebelles du M23 ont attaqué les positions des combattants de la coalition des mouvements pour le changement Semse Nyatura dans ces villages. Selon ces sources, deux civils ont été tués dans cette zone qui s'est vidée de sa population avant d'être pillée. Déplacés momentanément à Bukombo Centre, ses habitants retournent dans leur village ce mardi matin, disent les mêmes sources. Pendant ces temps, à Busanza, dans l'est du territoire de Rutshuru, d'autres accrochages ont été signalés toujours hier lundi entre les rebelles du M23 et un groupe Nyatura MPA. Le bilan n'a pas été révélé. Signalons qu'alors que l'effectivité du retrait du M23 de ces deux territoires où sont déjà déployées les unités de la force régionale de l'EAC est attendue, ces rebelles s'affrontent régulièrement avec les groupes d'autodéfense. Depuis le début de ce mois de juin, les acteurs locaux et la société civile disent avoir enregistré une dizaine d'accrochages. C'est notamment dans les groupements de Tongo, Bukombo et Busanza en territoire de Rutshuru, ainsi que dans les deux groupements de la chefferie de Bachali en territoire de Masisi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, désormais tous les taxis avec vitres teintées sont interdits de circuler dans la ville. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement provincial pour faire face à la recrudescence des cas d'enlèvement des passagers des taxis, taxibus et motos qui s'observent actuellement dans la capitale. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, ce phénomène est l'œuvre des personnes non autrement identifiées qui volent, violentent et extorquent les biens des paisibles citoyens. Ces mesures sont contenues dans un communiqué rendu public hier par ce dernier. Grâce Amzati nous en parle.
Dans ce communiqué, le gouvernement provincial de Kinshasa dit déplorer cette recrudescence des cas d'enlèvement qui crée insécurité et psychose dans la capitale et perturbe sensiblement la libre circulation des Kinois. Ainsi, pour lutter contre ces fléaux, il affirme avoir pris un certain nombre de mesures. C'est notamment l'interdiction des circulations des taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers essentiellement pour les taxis et les motos, l'affichage visible par les taxis, taxibus et motos du numéro d'identification, mais aussi le signalement par les transporteurs des intrus dans leur corporation. Par ailleurs, l'exécutif provincial de Kinshasa appelle à la vigilance et à dénoncer tous les suspects et leurs complices qui s'évertuent à troubler la quiétude de la population kinoise afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Toutefois, le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice rassure quant à l'implication de tous les services de sécurité de la ville en vue de garantir la sécurité des passagers sur le trafic urbain.
Rendons-nous au Congo central. Face à l'activisme des coupeurs de route sur la route nationale numéro 1, le commissaire provincial intérimaire de la police du Congo central annonce l'installation dans toutes les zones rouges de cette route des équipes montées de la police pour combattre et traquer ces bandits. Cette annonce a été faite hier à l'issue de la parade en guise de réaction à la dernière opération des coupeurs de route à la cité de Lukala, territoire de Mbanzangungu. Blaise Kilimba Limba est au micro de Nana Pluriche Mamba.
Trois points avaient été constatés. Phénomène coupeur de route qui avait ressurgi après plus de 6 mois. Mais du coup, il y a 2 semaines passées, un cas s'est déclaré au niveau des territoires de Mbanzangungu. Les bandits se sont organisés pour couper la route et dépouiller quelques passagers. Face à ces réalités, il y a des équipes montées qui sont mises en place pour combattre et traquer les coupeurs de route. Toutes les zones rouges ont été identifiées, encore une fois. Donc, dans ces zones rouges, il y aura des prépositionnements des jeeps montés de la police. Et ceux qui sont en train de prendre cette route sont en train de constater que, au niveau des 9 étages à Kasangulu, au niveau des Yawa, frontières entre Inkisi, Madimba et Mbanzangungu, au niveau des Chapopo, entre Kwilungongo, au niveau de l'entrée Luozi,
Je vous l'ai dit dans les titres, examen d'état édition 2023, les candidats finalistes du centre de Ngenge dans la province éducationnelle Nord Kivu 3 dans le Walikale n'ont pas passé les épreuves d'hier lundi. Nous sommes dans le groupement Walo à Yungu, environ 150 km du chef lieu du territoire de Walikale. En cause, les finalistes irréguliers, maintenus autodidactes, mécontents de leur statut, ont pris d'assaut le centre. Ils ont saccagé les bâtiments et déchiré les cahiers d'items. Les candidats qui étaient déjà dans les salles sont partis en débandade. L'inspecteur principal provincial adjoint parle d'un incident majeur. Jean-Baptiste Ategekimana Salongo dit avoir saisi l'inspection générale pour des dispositions utiles. On l'écoute au micro de Denise Lukeso.
Les premiers jours de passation, le 26 juin, il y a eu l'incident majeur dans un centre d'examen d'état appelé Ngenge, où nous attendions 655 candidats qui devront participer, mais entre eux, il y a eu des élèves irréguliers qui ont été maintenus comme des autodidactes. Ils n'ont pas été contents de cela. C'est pourquoi il y a eu ce soulèvement. Ils ont tout cassé, les bâtiments. Les candidats de ce centre ont pris fuite. Même le cahier du thème a été déchiré. J'ai informé la hiérarchie et maintenant c'est le jury national qui prendra la décision.
Et pour aujourd'hui, quelles dispositions que vous avez prises?
Nous continuons toujours d'abord l'observation. Toutefois, nous constatons qu'il y a encore quelques soulèvements qui pouvaient surgir dans ce même milieu. Nous allons délocaliser le centre. La situation sécuritaire est bien maintenue par les Ouazarendou du Mirier, dont les examens auroriers.
Ce responsable de l'éducation parle également de sept autres centres qui ont été délocalisés vers Sake à cause des affrontements. Il s'agit des centres de la sous-division Massissi 3, 6 et 7 dans le territoire de Massissi. En Ituri, l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO, s'est dit satisfaite du bon déroulement jusque-là des épreuves de l'examen d'État dans l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1, et ce, malgré l'insécurité qui prévaut dans plusieurs localités et les difficultés de paiement par certains parents des frais de passation de ces épreuves nationales. Selon cette structure, on doit se satisfaire si à la sensibilisation qu'elle dit avoir menée auprès des autorités afin que tous les élèves, y compris ceux n'ayant pas payé les frais afférents, puissent accéder librement aux salles d'examen. Martial Kizabiamungu.
D'après l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO, les rapports qu'elle a reçus de ses antennes à l'intérieur de la province renseignent que ces épreuves d'examen d'État se déroulent pour le moment sans incident. Même des élèves finalistes qui ne s'étaient pas encore acquittés des frais de participation ont eu accès aux salles de classe. Elle salue les efforts fournis par l'administration militaire pour la sécurisation des centres de passation de ces épreuves. David Poutou, président de l'ANAPECO à Ituri.
On a fait vraiment le message de façon qu'on accepte tous les enfants et dans toutes les conditions où ils peuvent se retrouver.
L'inspecteur provincial de la province éducationnelle Ituri 1 indique que c'est le centre de Mandima et Mania dans les territoires de Mambasa ont ouvert leurs portes en retard suite à la dernière attaque d'ADEF à Mania. Ferdinand Bossenda rassure que toutes les dispositions sont prises pour que ces épreuves se déroulent sans incident majeur.
Dans ces traumatismes-là, les enfants ne voulaient pas venir. Après beaucoup de communiqués, tout ça, ils sont quand même revenus. On a commencé l'examen un peu tard. Mais jusqu'au moment où je vous parle, la situation est revenue normale.
43 centres de passation d'examen d'État, dont un à Kampala, en Ouganda, sont opérationnels dans l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour les bénéficiaires des projets exécutés par le Fonds social de la RDC. Le ministère des Finances annonce qu'un accord a été trouvé avec la Banque mondiale pour la poursuite des projets après le changement intervenu au Fonds social de la RDC. Cet accord prévoit la reprise du financement des activités des projets exécutés par cet organisme. Il s'agit notamment du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP, de même que le projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. De détails avec Cynthia Bachizi.
Cette annonce est contenue dans un communiqué rendu public le lundi 26 juin. La RDC et la Banque mondiale conviennent que le personnel technique recruté par l'ancien fonds social de la RDC va continuer d'assurer la mise en œuvre des projets. C'est un mécanisme transitoire en attendant que le nouveau fonds social créé par ordonnance présidentielle du 28 avril 2023 soit fixé sur son sort par la Banque mondiale en tant qu'agence d'exécution des projets. Entre-temps, c'est le gouvernement à travers le ministère des Finances qui va assurer les dépenses urgentes des activités dans les zones d'intervention des projets dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Les paiements dus aux bénéficiaires commenceront au plus tard le 15 juillet 2023, précise le ministère des Finances. Une information qui devrait rassurer les bénéficiaires de ces projets. Ils avaient manifesté la semaine dernière dans les rues de Bukavu pour exiger la reprise des activités. Les contractants, pour leur part, avaient adressé un mémorandum au président de la République le 7 juin dernier. Ils déploraient la mise en pause de ce financement qui, d'après eux, les exposait à des conditions de vie difficiles. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon. Le pays organisera des élections présidentielles, législatives et locales en date du 26 août 2023. Le gouvernement a annoncé la nouvelle par décret du Conseil des ministres mardi. Le président sortant Ali Bongo Ondimba n'a pas encore déclaré s'il se représenterait, mais il est avec son parti l'actuel grand favori face à une opposition très divisée.
L'invité.
L'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila a rencontré dimanche dernier les députés et sénateurs membres du FCC. Ils ont échangé sur la situation politique et sécuritaire actuelle et la position du Front commun pour le Congo face à cette situation. Pour en parler, nous recevons la sénatrice Francine Muyumba. Elle nous fait la restitution de ces échanges et donne la position du FCC face au processus électoral en cours. Elle est interrogée par Michel Kifindangoy.
Sénatrice Francine Muyumba, bonjour.
Bonjour Michel.
Le président honoraire Joseph Kabila et sénateur à vie a rencontré ce dimanche les députés et sénateurs membres de sa plateforme politique, le Front commun pour le Congo. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges?
Le président Joseph Kabila a tout d'abord rassuré ses camarades que nous sommes et l'ensemble de ses compatriotes qu'il n'a pas abandonné la politique comme vous le savez, et que son silence est une expression forte d'un homme d'État qui porte sa nation comme l'ultime de ses préoccupations. Alors, il s'adressera à la nation bientôt. Aujourd'hui, le pays est en disparition à cause du tribalisme, manque de cohésion et caporalisation des services de sécurité et de défense qui est censé travailler pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, au lieu de s'occuper des individus pour des fins politiciennes. Le président Kabila nous a également encouragés de demeurer dans la résistance contre une dérive dictatoriale, car le Congo nous appartient tous.
Et pourquoi la résistance et non l'opposition?
La résistance parce que nous sommes en face d'un régime dictatorial qui marche sur tous les principes démocratiques et comme vous le savez, dont les responsabilités et l'amateurisme menacent la disparition de notre nation, comme je venais de le dire tout à l'heure. Une plateforme comme la nôtre, qui avait gagné les élections législatives, ne peut pas faire l'opposition. Mais puisqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, nous devons résister jusqu'à ce que les vraies élections nous départagent. Car il y a eu une usurpation par corruption d'une majorité en pleine législature.
La CENI vient de convoquer l'électorat le même dimanche. Est-ce que vous vous inscrivez dans la logique du processus électoral en cours?
Nous n'avons jamais refusé d'aller aux élections. Et nous attendons les élections dans les délais constitutionnels. Mais avant, il y a des préalables. Il s'agit tout d'abord d'une CENI consensuelle, d'une cour constitutionnelle non inféodée. Et ensuite, nous avons besoin d'une loi électorale inclusive. Il faut aussi un audit externe, indépendant et rigoureux du fichier électoral. Si ces préalables ne sont pas respectés pour le FCC, il n'y aura pas d'élection.
À 5 mois de la tenue des élections, tout ce que vous revendiquez sont presque irréalisables. Vous inscrivez-vous dans une logique du glissement ou de la politique de la chaise vide comme l'a fait l'UDPS en 2006?
Michel, nous rappelons tout d'abord que le délai constitutionnel est non négociable. Si le président Tshisekedi ne parvient pas à rencontrer nos exigences avant la fin de son mandat, il devra assumer ses erreurs, comme vous le savez, en déposant sa démission à l'expiration de son mandat. Voilà pourquoi le président du Sénat aura ainsi la charge de gérer la transition jusqu'à la tenue des élections réellement libres, crédibles et démocratiques, surtout transparentes.
Mais tout de même, la Constitution ne propose pas la démission du chef de l'État à l'expiration de son mandat, mais la Constitution stipule clairement que le chef de l'État reste en exercice juste à l'installation effective du nouveau président élu.
Bien évidemment, cher Michel, en juriste que je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais une chose qu'il faut rappeler ici, nous ne pouvons pas admettre à ce qu'une situation entretenue par manque de volonté politique puisse pénaliser toute une nation. Les revendications du FCC ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020 que nous avions tiré la sonnette d'alarme. Je sais que vous allez faire allusion à la jurisprudence de 2016, mais le président Kabila a été buté à un cas de force majeure, à force de rechercher les consensus, comme vous le savez, d'abord avec les dialogues de l'Union africaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est grâce aux efforts de consensus qui nous avaient amenés au dialogue de la CENCO. C'est ce qui a amené l'opposition à la tête du pays. Si on n'aimait pas la nation, on allait imposer notre candidat à la tête de ce pays. Voilà pourquoi nous demandons au président Tshisekedi, à la fin ou à l'expiration de son mandat, de déposer sa démission pour donner la chance au pays d'avoir des élections démocratiques, parce qu'il doit assumer ses erreurs. Sinon, si il avait écouté les FCC, on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui.
Francine Muyomba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, cher Michel.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.